Je suis Hugo Yancy, donc je suis actuellement postdoctorant au laboratoire Géode à Toulouse. Et donc, je vais faire la présentation du poster qui s'intitule « Dynamique d'évolution d'un paysage de piémont pyrénéen donc entre 1994 et 2018, donc des landes arbustives aux plantes invasives ». Donc, vous pouvez passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors, concernant l'étude, donc elle s'inscrit dans un contexte. Depuis plusieurs décennies déjà, l'invasion biologique donc par les espèces végétales s'est fortement accélérée, donc au point que celles-ci sont de nos jours reconnues comme la seconde cause de déclin de la biodiversité, puisqu'effectivement, elles peuvent modifier la structure et le fonctionnement des écosystèmes et entrer notamment en concurrence intensive avec les espèces indigènes. Donc, le processus et la dynamique de colonisation de ces dernières étant complexes, eh bien, la connaissance de leur distribution spatiale et temporelle est important afin de pouvoir comprendre justement leur schéma de colonisation. Alors, dans ce cadre-là, vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, dans ce cadre-là, l'étude vise à deux choses. Alors, premièrement, à étudier la dynamique d'évolution donc d'un paysage au cours des deux dernières décennies par le suivi de plantes buissonnantes. Et deuxièmement, de localiser en 2018 donc l'extension spatiale d'une plante invasive, donc en l'occurrence il s'agit de la spirée du Japon, qui est l'objet de notre étude, afin de comprendre et de suivre sa dynamique d'évolution dans le temps. Alors, ce deuxième point est approché à un autre projet, EI2P, sur lequel je reviendrai ultérieurement. Donc, vous pouvez passer à la diapo suivante. Alors, concernant le site d'étude, il est localisé sur la commune de Labasserre, dans la vallée du Souette, donc en Haute-Pyrénées. Alors, c'est une zone de piémont qui est dominée par des bois et des pâturages et qui, jusqu'au début du XXe siècle, avait pour activité le pastoralisme et la production d'ardoises. Deux activités qui, à partir du milieu des années 50, ont décliné et qui ont entraîné une fermeture progressive du paysage. Et ça s'est accompagné également d'une colonisation par les plantes invasives des milieux encore ouverts, et donc notamment l'aspirée du Japon. Alors, vous pouvez passer à la diapo suivante. Alors, afin de répondre aux deux objectifs donc, que j'ai cités précédemment, une cartographie donc, par analyse diachronique a été réalisée. Donc là, vous avez le schéma un peu simplifié de la méthode. Mais en tout cas, les zones occupées donc, par l'aspirée du Japon ont été évaluées à partir d'images drones. Et les photographies aériennes et les images satellites, elles, ont servi à comprendre l'évolution du paysage donc, au cours des deux dernières décennies. Ensuite, pour la classification donc, des images, donc à partir des images, différents indices ont été calculés afin de mettre en évidence la végétation, le sol, etc. Et donc, ensuite, ont été réalisées des classifications supervisées qui, au final, ont permis d'obtenir aux différentes dates des cartes d'occupation du sol. Alors, pour ce qui est des principaux résultats, donc sur la diapositive suivante, alors concernant les classifications aux différentes dates, donc, ce que l'on obtient, c'est de bons résultats, puisque le kappa moyen est de 0,81, alors qu'il y a un estimateur en fait, de la qualité générale des modèles. Et également pour l'année 2018, donc l'image drone, une très bonne détection des plantes invasives, donc en l'occurrence l'aspirée du Japon, donc avec un F-score de 0,87, qui est aussi un estimateur de la qualité pour la classe en question. Et concernant la dynamique paysagère, donc sur notre période d'étude, on relève notamment l'augmentation en fait, de la surface des landes depuis les années 2000, ainsi que dans une moindre mesure, à partir de 2016, une baisse de déboisement. Donc maintenant, j'en viens, comme évoqué précédemment au projet U2P, aux perspectives, donc sur la diapo suivante. Alors, projet U2P pour espèces invasives et pollinisateurs, donc entre contraintes et potentiels, en fait, c'est un projet qui vise une approche multidisciplinaire, donc mélangeant les SHS, l'écologie, l'éthologie, mais également une approche multisite. Alors, pour ce qui concerne l'étude spatiale, donc, elle est en train d'être réalisée donc, au travers d'un postdoc, donc débuté en juillet. Et donc, le traitement vise à analyser de manière diachronique des images donc haute résolution qui ont été acquises et sont encore acquises de manière annuelle donc par drone depuis 2018, mais aussi des images satellites. Et donc en fait, l'objectif de ce volet, c'est d'une part d'estimer la structure paysagère à haute résolution, donc de paysage modèle, donc dans la vallée du Souët et la vallée de la Pique en Haute-Garonne, et d'évaluer l'évolution de l'étendue spatiale des plantes invasives, et de faire le lien ensuite avec les différentes disciplines du projet en établissant des liens en fait, entre distribution spatiale des plantes invasives et leur attrait pour les pollinisateurs. Voilà, en vous remerciant.
Je remercie d'abord, enfin, je remercie le comité scientifique d'avoir sélectionné notre proposition. C'est donc, je vais vous présenter un poster sur Savenières, sur les héritages paysagers et le lien avec l'agroécologie. Il s'agit d'une étude de cas qui préfigure une recherche doctorale sur la patrimonialisation d'un paysage viticole de Loire et sa conservation inventive. En réponse, eh bien, aux transformations induites par les mutations climatiques et sociétales. Nous sommes trois à avoir alimenté ce poster. Évelyne de Pontbriand, vigneronne à Savenières, présidente de l'Académie du Chenin. Isabelle Lajeunesse, maître de conférence à l'Université de Tours et membre éminent de l'équipe CITER. Et moi-même, qui intervient au nom de, enfin, de, en tant que membre d'un réseau international sur les paysages culturels. Avant de passer à la diapositive suivante, quelques mots sur la méthode. L'objet, c'est d'interroger le lien entre paysage et terroir à partir d'une AOP, celle de Savenières. Souvent, quand on parle d'une AOP, on parle d'une délimitation géographique, d'un encépagement, de modes de production qui sont construits à travers l'histoire, mais jamais ou rarement, voire jamais, de paysage. Le paysage est suggéré à travers les savoir-faire, à travers aussi, pourtant, le paysage est un élément de médiation de plus en plus utilisé parce que c'est un gage d'authenticité et de qualité de la production viticole. Et pourtant, il est rarement intégré comme une clé d'une stratégie permettant ou expliquant ou garantissant la pérennité de l'AOC. Donc, c'est un peu l'objet de cette étude de cas à travers l'engagement de la communauté viticole de Savenières dans une réflexion en matière de gestion agroécologique. Donc, si Amélie, si tu peux passer le deuxième, la deux, merci beaucoup. Alors, en résumé, quelques traits de ce patrimoine paysager du vignoble de Savenières. Pour ceux qui ne sauraient pas encore, Savenières est une commune de la communauté urbaine d'Angers, avec un vignoble très réputé. La situation de ce vignoble, eh bien, c'est avant tout une géographie née du fleuve, et c'est un des traits principaux de ce patrimoine paysager. C'est un promontoire en aval de la confluence Loire-Maine, comme le montre le diagramme que vous avez à droite, un relief bénéficiant d'un ensoleillement optimal, mais surtout un relief de coulée, c'est-à-dire des petits vallons perpendiculaires au fleuve, qui permettent à l'effet régulateur du fleuve ainsi qu'à la richesse biologique, eh bien, de pouvoir se répandre de la rive jusqu'en haut du coteau. Ce sont bien sûr des sols. Bref, une situation favorable pour l'acclimatation et l'élaboration de vins blancs fins. À noter un point, c'est que depuis la baisse de la ligne d'eau, eh bien, on observe un changement de fond dans la production des vins, puisque nous sommes passés de vins moelleux à des vins blancs secs. Et ça, c'est directement lié, indépendamment bien sûr de l'évolution du marché, mais c'est directement lié à la baisse de la ligne d'eau et au fait que l'effet régulateur ne remonte plus jusqu'en haut de la coulée. Deuxième trait de cet héritage paysager, eh bien, c'est une tradition de plantation selon les courbes de niveau mis en place, enfin, que l'on attribue aux moines bénédictins de l'abbaye d'Angers qui tenait le fief de la fameuse coulée de Séran. On retrouve cette tradition jusqu'à maintenant, et la plus célèbre, c'est celle au 19e. De Monsieur Guillory, qui a voulu reprendre le principe d'une mise en culture suisse, celle de la terrasse de la Vaux, et qui a occupé un lieu-dit, la petite coulée, qu'il a renommé le Clos de Lausanne. Alors, j'insiste beaucoup sur cette notion de lieu-dit, on verra pourquoi tout à l'heure. L'autre point, c'est que nous avons affaire à une viticulture de clos, c'est-à-dire une viticulture liée, bien sûr, comment dire, à l'intervention des moines, mais aussi et surtout à l'investissement de la bourgeoisie angevine à partir du 15e, avec nombre de maisons de rapport et de planches de vigne, avec un régime de bail à complan qui a permis, eh bien, une diffusion, une exploitation de ce vignoble, qui par ailleurs bénéficiait de facilités d'exportation grâce à la présence de négociants hollandais qui ont permis une diffusion de ce, à partir notamment du 17e, une diffusion du produit de ce vignoble dans toute l'Europe du Nord ainsi qu'en Afrique du Sud. Donc, vous voyez que c'est quand même très important. Dernier point de ces caractéristiques paysagères, eh bien, c'est le fait que la vigne est devenue un motif paysager dans la composition des grandes demeures d'Anjou. Nous abordons à partir du 18e, et vous le voyez sur la photo. Première photo, c'est le clos, c'est la closerie du Grand Clos de Serran. Et puis après, c'est la castellisation enfin, d'une partie de la clé de Serran, avec justement un exemple de grande demeure d'Anjou et son parc paysager avec la mise en scène de la vigne, de part et d'autre. Cette mise en scène étant bâtie sur les vestiges de la forteresse. Notamment. Au total, nous avons sur 21 km² 17 châteaux, manoirs, maisons de maître, une densité patrimoniale singulière qui pourtant n'est pas, qui donne un paysage assez secret qu'on ne peut découvrir que du fleuve et des îles. Donc c'est assez étonnant comme situation. Troisième diapositive, et ce sera la dernière, le lien entre ces caractéristiques, cette fabrique ressortir du paysage et l'agroécologie, eh bien nous avons une tradition d'innovation savante l'engagement actuel de la communauté viticole s'inscrit dans cette tradition. Qu'est-ce que c'est? C'est avant tout, eh bien, on arrive à une marqueterie oui, de sol et de valeur d'usage. Et j'insiste beaucoup sur la carte que vous avez ici, où là sont croisées les valeurs de sol et les lieux-dits. Et il est certain qu'il va falloir approfondir, c'est un parchemin, si vous voulez, qu'on a à décrypter pour qualifier la valeur culturelle de ce terroir à travers justement ce croisement entre unité terroir de base, c'est-à-dire les qualités à la fois pédologiques, climatologiques et géographiques, enfin, et physiques du lieu, et la notion de lieu-dit. Donc cette démarche, d'ailleurs, est à rapprocher certainement de la mosaïque des climats de Bourgogne inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. Et on peut se poser la question, y a-t-il une même anthropologie du paysage dans la fabrication du vignoble de Savennières et celle de Bourgogne? Ça sera un des points de la recherche. Sur
Merci.
l'infini. Ah bon? Ah non, je ne peux pas plus ou pas?
Ben, une dernière phrase alors, hein.
Dernière phrase, il y
Sûr.
a donc la réflexion en cours sur l'agroécologie. Ces deux grands projets que vous avez décrits sur le poster. Et l'objet de cette démarche, eh bien, c'est d'inscrire à terme dans le futur cahier des charges des prescriptions environnementales et paysagères. Merci beaucoup.